en jase. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Déjà 13h12 dans cette journée des vœux de Noël à Leclerc Communication. On vous revient avec tous les détails tout à l'heure parce que là, Laura s'est bousculée, hein, Pascal, avec cette belle entrevue avec Jaylan et sa famille.
C'est allé vite.
Yes, on va avoir peu de temps avec Catherine Lamontagne, donc on s'en va la rejoindre immédiatement. Journaliste pour le Journal de Québec et également écrivaine. Catherine, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Cool. Catherine, d'où est venue l'idée, là, justement, de continuer avec cette histoire-là de Jacques Delisle? Est-ce que c'est en raison, justement, des témoignages sur lesquels vous avez eu accès, là, témoignages où on voit, là, justement, Jacques Delisle en interrogatoire?
Bien, en fait, la saga Delisle, c'est une histoire sur laquelle je travaille, moi, depuis 15 ans. Donc, j'avais publié un premier livre là-dessus en 2014 là, qui relatait, j'ai envie de vous dire, le premier chapitre de cette histoire-là qui était déjà fascinante. Hein. C'était quand même la première fois qu'un juge était accusé de meurtre prémédité au Canada, si c'est pas en Occident. Donc, il y avait eu un premier livre en 2014 et par la suite, j'ai été approchée par la boîte de production Pixcom et le réalisateur Simon Fachel pour faire un documentaire. Ce qu'on se doutait pas, par exemple, à ce moment-là, c'est qu'il allait avoir une autre décennie de rebondissement dans cette affaire-là. On le sait, le ministre ordonnait un nouveau procès là, en disant que M. Delisle avait possiblement été victime d'une erreur judiciaire. Et finalement, au bout de 15 ans là, de procédure, Jacques Delisle a été coupable à une accusation d'homicide involontaire. Et il demeure encore aujourd'hui une espèce d'aura de mystère sur cette affaire-là. Parce que on sait pas encore vraiment, et probablement qu'on saura jamais là, ce qui s'est passé le matin du 12 novembre 2009, quand la femme du juge Delisle, là, Nicole Rainville, a été retrouvée sans vie avec une balle dans la tête. Donc tout ça amenait un certain intérêt. Chez moi, j'avais des questions, puis avec l'équipe de la boîte de production, on est allé trouver certaines réponses à nos questions. Je vais vous dire, on a eu accès à des documents inédits, des entrevues aussi où les gens sont allés plus loin qu'est-ce qu'ils nous avaient dit habituellement. Vous avez parlé de l'interrogatoire d'entrée de jeu. L'interrogatoire de Jacques Delisle, ça n'avait jamais été rendu public. Là. Donc, on voit Jacques Delisle dans les heures suivant son arrestation pour le meurtre prémédité de son épouse. Donc, ça fait partie des pièces là, qu'on retrouve dans le livre et le documentaire.
On a hâte de lire ça, assurément. Ça sort dans les prochaines heures, en fait. On a les clips. On va faire entendre ça après t'avoir parlé, Catherine, parce que je sais que c'est une grosse journée média pour toi, veux pas. C'est un des cas qui a vraiment été joué dans l'imaginaire du commun des mortels qui suivaient ça, un peu comme les séries maintenant qui sortent sur Netflix, etc. Et là, c'était une histoire vraie. Qu'est-ce qui, toi, te marque en tant que personne et ou journaliste de ce cas-là après autant d'années?
Mais il y a plusieurs éléments marquants, mais moi, ce qui m'a à chaque fois surpris, en fait, c'est les rebondissements. En 15 ans, je pense que j'ai pensé à plusieurs reprises que c'est un dossier qui était terminé, mais non. Donc, il y a l'arrestation de Jacques Delisle, il y a le procès, il est connu coupable, on va se dire, bon, c'est terminé. Là, il va en cour d'appel, la cour d'appel refuse, on se dit, bon, mais c'est terminé. Il va contester encore le verdict de culpabilité en la Cour suprême veut pas entendre le dossier, on se dit, bon, mais c'est terminé. Mais non, il sort une autre carte, en fait, qui est prévue au Code criminel, la demande de révision ministérielle. Donc, il va demander au ministre, là, il va livrer une nouvelle version des faits aussi. Là, on sait que la version de Jacques Delisle a changé au fil du temps. Et là, on se dit, bon, mais là, c'est tellement rare d'avoir un nouveau procès dans cette procédure-là, ça va se terminer. Mais non, le ministre ordonne un nouveau procès. Donc, ça a été sans cesse là, des rebondissements en rebondissements pendant 15 ans. Et le plus gros rebondissement de cette affaire-là, c'est quand Jacques Delisle, qui clame son innocence depuis 15 ans, qui dit qu'il n'a rien à voir avec le décès de sa femme, finit par plaider coupable à une accusation d'homicide involontaire en bout de ligne. Donc, ça aussi, c'est assez surprenant. Donc, puis même encore aujourd'hui, bon, il demeure des zones d'ombre dans cette histoire-là, mais peut-être qu'un jour, là, on aura un énième revirement de situation dans cette affaire-là. C'est pas exclu du tout.
Ah oui, hein, la porte est ouverte.
Catherine, en terminant, si Jacques Delisle n'avait pas été un juge, est-ce que tu crois que la saga aurait duré aussi longtemps?
Mais ça, c'est une bonne question. Puis je pense que c'est une question à double tranchant. Parce que d'un côté, il y a des gens qui disent « Oh, c'est bien, c'est un juge, il y a eu un nouveau procès, le ministre il a fait une faveur, blabla. » Et il y avait les moyens de se défendre, ta, ta, ta. Et il y a de l'autre côté, il y a quand même des gens qui disent « Ben justement, parce que c'est un juge, ben la cour d'appel n'a pas voulu ordonner un nouveau procès pour pas qu'il y ait apparence de conflit d'intérêts. » Donc, forcément, dans l'imaginaire collectif, Le fait que Jacques Delisle ait été un juge semble avoir eu un impact, mais lequel? Difficile de répondre à cette question-là.
Catherine Lamontagne, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Puis on se fait une date, hein? Tu viens nous voir en studio à un moment donné pour qu'on prenne vraiment le temps d'avoir ton opinion sur ce dossier que tu as suivi durant 15 années. Moi, c'est un dossier qui m'a passionné là, en termes de bébite d'actualité. Ah oui, qui me passionne
par texto,
encore.
Tout ce qu'on se fait dire, c'est « moi, je suis pas sûr encore. Moi, j'ai encore des doutes. Ah, moi, je suis convaincu. Ah, t'es... »
Exactement. Merci. Fait que je te laisse organiser ça avec Pascal CV, Catherine, puis on se fait un moment en ondes, un bon 15 minutes où on va faire le tour de ce dossier-là au complet avec toi.
Avec grand plaisir.
Cool. Hey, merci. Bonne journée médiatique. Bon lancement de livre et félicitations pour ton excellent travail.
Merci à vous deux. Bonne journée.
Salut. Salut.
Les clips sont percutantes aussi cet entretien-là qui avait été fait avec la police, hein, les enquêteurs dans le dossier il y a quelques années.
On vient justement de porter les accusations. Donc, il est dans la salle d'interrogatoire parce qu'on est allé le rechercher chez eux en disant « toi, tu t'en viens à la cour ». Et là, ce que l'enquêteur en charge du dossier explique, c'est qu'il dit « moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il parle ». Normalement, c'est un juge. J'aurais dit « hey, moi, je veux mon avocat. On s'en va régler ça devant un juge ». Mais non, Jacques Delisle, lui, il se met à jaser.
Rappelle-nous, on est en quelle année à ce moment-là?
À ce moment-là, c'est une bonne question. Il faudrait que je le retrouve. Je ne l'ai pas devant moi. Je vais le retrouver. Puis, écoute bien ça, Pascal, pour montrer à quel point le juge Delisle aimait parler et aimait se mettre au-dessus des autres. Écoute bien une des premières interventions qu'il va faire avec l'enquêteur.
On est en 2010.
Maintenant, je regardais... Excusez, monsieur. Ça me fait drôle de vous donner vos droits. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, je prends pour acquis que le droit, vous connaissez ça pas mal plus que la plupart des gens.
Vous, les enfants?
J'en ai deux.
Tiens pour acquis. To take for granted. Je tiens pour acquis. Tenir pour acquis.
C'est quoi que j'ai dit qui...
Je prends pour acquis.
OK.
Fait que tu vois, il se permet de reprendre
le français de l'enquêteur
sur son français.
Moi, ce que je
vois. L'enquêteur Dave Dufour dans le dossier.
Moi, ce que je voyais là-dedans quand j'ai écouté ça ce matin, c'est pas le désir de reprendre l'enquêteur sur son français, c'est le désir de se positionner au-dessus de l'enquêteur.
Exactement.
Et de prendre le momentum pour leader la conversation. Oui. Asseoir un pouvoir quelconque.
En plein ça. Par la suite, l'interrogatoire continue et la première chose qui ressort chez Jacques Delisle, c'est qu'il a peur pour sa réputation.
Qu'est-ce que vous dites? Comment vous sentez de vous voir que c'est vous qui est dans là, le film aujourd'hui?
Non, mais franchement, posez pas cette question-là. Là. Pensez pas que je saute au plafond et que je suis très heureux. Là. Imaginez-vous, là. Mais la réputation, là. Imaginez-vous, juste la réputation. Moi, j'ai rien à voir dans ce qui est arrivé à Nicole, mais imaginez-vous tout ce qui va se dire à Québec. Voyez la manchette des journaux, un ex-juge de la cour d'appel accusé du meurtre de son épouse. Demandez-moi pas qu'on lui enchevile, monsieur, là. Ça peut-être ne pas paraître, mais à l'intérieur, là...
Fait que c'est immédiatement sa réputation à laquelle il pense. Je pense que ça vient avec le travail qu'il avait, le mode de vie, t'sais. Hey, je suis juge, t'sais, c'est big là, dans la société. Là.
Ben, je veux dire...
Je retombe, là.
Et rien contre les éboueurs, mais tu comprends que c'est quelque chose qui est un petit peu plus caché. Là. Tu sais pas trop qui vient ramasser tes poubelles au quotidien, mais
oui, puis
même
si
je suis éboueur...
Il y a personne qui va se présenter et dire « Salut, moi, je suis éboueur », tandis que si t'es juge, « Bonjour, je suis le juge de Lille ».
Mais mon point est que même si j'étais éboueuse, j'aurais peur pour ma réputation.
Ben oui.
Mais là, si t'es rendu là, c'est qu'on a des doutes que ta réputation,
exactement,
c'est peut-être pas celle qu'on connaît.
C'est en plein ça. On est en 2010, Catherine Lamontagne nous l'a dit, en 2025. Là, c'est la sortie du livre. C'est en 2024 là, qu'il avait reconnu sa culpabilité. Mais en 2010, il va nier avoir tué sa femme.
Le jour, il faut les assumer. Le 12 novembre, là, je me trompe-tu que si je vous la donne, là, vous l'effaceriez cette journée-là? Vous l'effaceriez?
Oh, on n'avait pas, pardonne-moi, non. Il y a eu un problème dans l'extrait, mais bref, il va venir dire que il nie avoir tué sa femme, que c'est pas lui qui a tué sa femme. Donc, pourquoi, justement, il viendra oublier la journée fatidique du 12 novembre de la mort de sa femme? Et par la suite, il continue en mentionnant qu'il a aucun remords.
Je peux l'éliminer, là. Fait que la petite affaire qui manque, c'est juste l'aspect remords, si... vraiment, vous me dites, vous êtes pas un sans-cœur, puis ce qui s'est passé ce matin-là, c'est vraiment une perte de contrôle. C'est momentané, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Puis...
Il y a des remords. On a des remords quand on a commis quelque chose de pas correct, mais il n'y a pas de remords si on n'a rien à se reprocher.
Fait que tu vois, on n'a rien à se reprocher à ce moment-là. Chose particulière, et puis je pense à ça là, rapidement, c'est que sa famille l'a toujours supporté. Son fils a toujours été derrière lui.
En majorité, oui. Il y a eu des moments où on a senti les choses sceptiques. Puis Catherine nous le dira, puis elle peut bien passer vendredi si on veut, puis on a un trou dans l'émission, c'est ce qu'elle m'a écrit. Mais tenir le cap dans cette histoire-là, quand ta mère n'est plus là pour témoigner, pour parler, doit être extrêmement difficile. Puis en cours, je veux te dire une affaire. Moi, ça m'est arrivé à deux moments là, de me rendre en salle quand il y a eu des revirements de situation, puis tout ça. Puis un de mes collègues très proches le suivait. tu viens... Non, tu te portes pas à... Mais tu viens mêler, là.
Ben oui.
Tu viens mêler, puis toi, en tant que journaliste, tu te dois d'être neutre. Puis à un moment, souvent, tu peux savoir où est-ce que va la cause, puis où est-ce que ça s'en va. Dans ce cas-ci, c'était très complexe parce que c'était parole d'expert contre parole d'expert aussi pendant de bons moments. Et les deux disaient des choses complètement différentes.
Le contraire, exactement. Un qui disait que c'était impossible que la femme de Jacques Delisle était capable de prendre le pistolet dans l'angle qu'il était. Un autre qui disait que c'était possible. Alors, c'était là un peu la bataille d'experts. Puis dans le dernier extrait, vous pourrez aller le voir. Là, c'est disponible là, sur le site du Journal de Québec. C'est Jacques Delisle, ça m'a surpris qu'il se dise hey, « Écoutez bien, moi, je me suiciderai pas. » Il amène ça de même. « Je me suiciderai pas, puis vous allez voir. » Ça va être le juge qui va trancher, puis il va trancher en ma faveur. Donc, tu sais, il était...
Il était souvent extrêmement dans ce qu'il allait proposer.
Exactement.
Ça sortait un peu nulle part.
Ouais, puis très, très agressif là, envers l'enquêteur, là, évidemment. Alors, le livre sort aujourd'hui, Pascal, pour Catherine Lamontagne, sur l'histoire de Jacques Delisle. On va l'avoir en studio là, cette semaine pour qu'elle nous explique davantage toute cette épopée qui a marqué la ville de Québec pendant 15 ans.
Et le droit au complet.
Ah oui, le droit au complet, t'as tellement raison. Avec Jacques Larochelle, son avocat, qui a du verbe comme pas un. Réellement, c'était assez particulier à suivre.
Un spectacle d'avocat en soi, Jacques.
Ah oui, un spectacle d'avocat. Certain. J'ai déjà joué avec un de ses fils au hockey. J'allais chercher son fils dans sa grosse cabane d'avocat. Lui, il avait 6 ou 8 enfants, là, si je me rappelle bien.
Grosse famille.
Ah oui, très grosse famille. Un homme très, très, très occupé. Je vais t'avouer que je l'ai pas vu souvent à l'aréna, il était plus dans ses causes judiciaires.
Oui,
exactement. Après la pause, on vous rappelle comment faire pour contribuer à nos vœux de Noël et on va être également avec Lambert Drainville. On va revenir sur cette guerre ouverte-là des médecins là, avec le gouvernement. Et Lambert veut nous parler aussi de la visite de Mark Carney en Chine. Puis en Corée du Sud, Mark qui tente de se faire des nouveaux amis. Ouf, des nouveaux amis chinois. Ça aussi, c'est un autre rendez-vous qu'on va faire avec Gilles Levasseur lundi prochain.
Ah oui, puis vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vu passer, mais Trump a coupé l'herbe sous le pied de Carney parce que la Chine a confirmé que Xi Jinping rencontrait Trump en Corée du Sud et il y a même eu semi-entente là, avec Trump.
Quand on dit que ça brasse entre les États-Unis et le Canada, en voilà une autre preuve. Alors, restez avec nous après cette courte pause. Lambert Drainville à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
On en jase jusqu'à